en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci madame. Je voudrais d'abord remercier madame la présidente, mesdames et messieurs les membres de l'Institut de m'accueillir ici si généreusement et de me donner l'occasion de parler dans un cadre aussi prestigieux que savant. Ce que je tiens à développer ici, au fond, le propos est extrêmement simple. Si je voulais le résumer, je dirais qu'il y a un problème qui est généralement considéré comme complexe, auquel on propose des solutions simples. À mon avis, le problème est simple, mais les solutions sont complexes. Je ne sais pas si on gagnera grand-chose à m'écouter, mais étant donné que vous avez eu la générosité ou peut-être commis l'imprudence de m'inviter, si je puis dire, je vous tiens. Pour 30 ou 35 minutes, il me semble. Voilà, le propos est très simple. Ça part d'un constat pratique, urgent, difficile s'il en est. Les problèmes posés par l'islam à travers le monde. D'abord, pour les musulmans, comme tout le monde en est conscient, et ensuite, si je puis dire, urbi et orbi. Tout le monde y trempe, y compris les pays occidentaux qui sont particulièrement sensibles et se sentent particulièrement visés par une attitude qui trouve sa racine dans l'islam, je dirais, d'abord une attitude rebelle, ne pas entrer dans ce qu'on appelle le concert des nations, avec les chefs d'orchestre habituels, et je dirais ensuite dans une attitude rebelle, de rejet, où ceux qui font le plus de bruit, ceux qui causent le plus de dégâts, en un mot, ceux qui sont les ennuyeurs, je dirais professionnels, tiennent le devant de la scène et se font voir et remarquer plus que quiconque. Quel est le problème au fond? C'est, je dirais, les problèmes sont bons du niveau international à la vie quotidienne, depuis les crises du Moyen-Orient jusqu'au port du voile. Vous en êtes aussi familier que moi et que tous. Ces problèmes sont en général mis sur le compte, pas seulement de l'islam et de l'islamisme, ou plus précisément, je dirais, du problème de la loi, de l'obéissance à la loi et de l'application de la loi, de la charia, qui semble être à la racine des choses. À ce problème, on désigne un origine premier, qui est loin d'être faux, et c'est la société musulmane première de l'époque du prophète, où le prophète était à la fois juge, guerrier et prêtre. Rien d'original, je dirais, comme dans beaucoup de sociétés considérées, je le mettrai entre guillemets, primitives. Ça n'a rien de particulier. Ça, c'est l'origine lointaine. Et il y a aussi une origine, je dirais, plus proche de nous, quoique remontant il y a presque une quarantaine d'années, et c'est la révolution iranienne. C'est la révolution iranienne, c'est la prise de pouvoir de Khomeini et la réalisation de l'utopie, enfin, société islamique, qui plus est, dirigée par des religieux et qui marche. Il ne serait guère, je dirais, exagéré de dire que le février iranien a été l'octobre des islamistes, la réalisation de l'utopie avec toutes les répercussions que cela pouvait avoir à travers le monde. Et on est bien placé de le constater 35 ans après. Tout comme, j'ajouterai juste pour faire une petite parallèle, la guerre d'Afghanistan a été leur guerre d'Espagne. Pas aussi sympathique, pas avec des jolis chants, mais avec la même fonction. On vient de partout, on fait la guerre. On entre dans le creuset, on en sort changé, on répand, la bonne parole par la suite, de façon très dynamique. Le problème pourrait être considéré, le problème qui nous occupe, et c'est considéré, taxé, qualifié, à juste titre, de manière précise, de théologico-politique. Ah. D'ailleurs, le mot est à la mode depuis déjà une vingtaine d'années, au moins. On y revient, on regarde, on réévalue les rapports avec le religieux et le politique, que ce mot complexe, ce doublé, ce cercle, où on ne sait pas, où on ne veut pas décider d'où vient le dynamisme entre ces deux, est censé résumer tout. Mais en ce qui concerne l'islam agressif, l'islam appliquant la loi de manière, je dirais, parfois impitoyable, il y a quelque chose qui est parfois omis, non pas omis, mais qui pousse uniquement du côté du religieux. D'abord, à propos de l'application de la loi, de la charia, j'attire votre attention sur un problème extrêmement, sur un point extrêmement simple et extrêmement, je dirais, mais en même temps assez important. Que peut-on faire avec la loi? On peut demander l'application de la loi à un pouvoir séculier. Ça, c'est la tradition islamique sur plusieurs siècles. Mais on peut aussi, et là, on change de régime politique. Faire de la loi le critère primordial, la référence absolue en matière de gouvernement, et essayer de tout régler en référence à cette conception. Disons que le régime politique qui va avec le premier, ou le régime traditionnel, on peut les appeler despotisme, bon oui, comme on veut. Si c'est moderne, on dirait plutôt régime autoritaire. Dans le second cas, on tombe dans du totalitarisme, dans l'idéocratie plus précisément, selon le mot de Raymond Aron, qu'il a beaucoup mieux qualifié qu'Anna Arendt en la matière. L'idéocratie, c'est la loi qui décide, c'est la loi qui gouverne. Naturellement, la loi ne gouverne pas directement. Ce sont les spécialistes de la loi qui le font, ou les religieux, comme en Iran. Donc, la différence vaut la peine d'être soulignée. Bref, je reviens à cette histoire théologico-politique. Quand on regarde les analyses ou la formulation du problème, on constate que l'aspect religieux est mis en avant, plus que l'aspect politique. On ne parle pratiquement pas de régime politique. Mais l'aspect religieux est important. On parle de la religion, on parle du Coran, on parle du prophète, on parle de la société première, et ainsi de suite. Et le rôle éminent de la religion, dans cette affaire est souligné pour plusieurs raisons. Naturellement, parce qu'on a affaire à des mouvements islamistes, on a affaire à un idiome religieux, on a affaire à une sorte d'exploitation des rites, et c'est évident. Au-delà, on peut distinguer parfois l'idée que la religion serait le facteur principal, pour ne pas dire la dernière instance, dans le devenir historique et dans l'explication de ce devenir. C'est un choix, comme un autre. Naturellement, la solution qu'on essaie de proposer dans ce cas dépend de la formulation du problème, évidemment. Et quelle est la solution? Ce qu'on entend le plus, c'est le mot effort. Je dirais, il y a un choix. Séparation, qu'on l'appelle laïcité à la française, ou sécularisme, bien que le mot n'ait pas exactement le même sens, ne soit pas précis, puisse donner d'énormes malentendus, on choisit la réforme. C'est la réforme qui doit intervenir, on doit moderniser la religion. Comme d'habitude, l'idée du progrès perce un peu derrière, montre le bout de son nez. Bien sûr, l'idée a beau être critiquée, vieillie, étriquée, tout ce qu'on veut, mais il est quand même difficile de se passer de cette idée-là. Donc, l'islam a du retard, on va le mettre à jour. Qui va le mettre à jour? Les candidats ne manquent pas. Les candidats qui arrivent avec une nouvelle version de l'islam. Ils sont là et ils interprètent les sources sacrées, en premier lieu le Coran, ce qui est très important, très utile, qui ouvre la voie à un discours, je dirais, à une réforme de la religion qui va venir, mais qui, à mon avis, est largement insuffisant. Et je vais vous dire pourquoi. Juste au passage, oui, voilà, le mot, bien sûr, on parle de la modernisation de la religion aussi. Mais il faut noter aussi que la modernisation est prise ici dans un sens très restrictif. Libéral, lumière, droit de l'homme. Mais nous savons tous que la modernité ne se résume pas à cela. Je me permets de souligner que Khomeini est particulièrement moderne, a été particulièrement moderne, parce qu'un régime totalitaire est moderne, tout simplement. C'est pas aimable, mais c'est moderne. Référence à la tradition, bien sûr, mais la modernité est là. Si je voulais être un peu, je dirais, provocateur, je vous ferais souligner que le profil de Khomeini ressemble beaucoup plus à un Luther que les parcs, disons, les amateurs de réforme que nous voyons à droite et à gauche. La réforme peut se réaliser, mais ne va pas forcément dans le sens que nous souhaitons. Il y a deux choses. Voilà, je vous parlais de cette histoire de réforme qui est mise en avant. Voilà, l'interprétation, nouvelle interprétation, et on a parfois le sentiment que tout le problème, toute l'affaire, passe par une sorte de réduction au texte. La réalité extérieure, le problème géographique, les problèmes sociologiques, et ainsi de suite, ne sont pas tellement présents. Vous voyez, il est là, on va aller lire les textes et proposer une nouvelle interprétation. Activité intellectuelle par excellence. Activité de cabinet, noble, mais limitée. Ce discours modernisateur est en général formé autour de deux idées. Les deux très nobles. Un, la rationalité, bien sûr. La raison vous dit que, ma foi, vous m'apportez la charia, vous m'apportez la loi, et je la soumets à une critique rationnelle, ce qui est de plus normal et ce qui est de plus demandé. D'un autre côté, il y a aussi l'idée d'une sorte de démocratisation qui pointe. De quelle manière ? De fait qu'on va aller directement voir les fidèles. Que veulent les fidèles ? Les fidèles veulent cela. On va s'appuyer sur les fidèles pour mettre en place la réforme que nous souhaitons. Parfois, de manière imprécise, je le reconnais, je le concède d'avance, cela est résumé sous la dénomination d'une sorte de protestantisme flou. En quel sens ? Au moins dans le sens de rejeter les intermédiaires, aller directement vers les fidèles, vers les croyants. Mais, comme vous le constatez tout comme moi, ces tentatives de réforme n'ont pas l'air de marcher, ni en Occident, où, à mon avis, l'essentiel ne se passera pas là, ni en terre d'islam d'ailleurs. On ne décèle pas pour le moment un intérêt suffisant. Et j'ajouterai une chose, même s'il y avait des gens qui suivaient tel ou tel projet réformiste, dans la situation actuelle, l'affaire n'irait pas au-delà de la création d'une nouvelle secte. C'est tout. Un groupe, une petite kyste qui est là, où les gens pensent de telle ou telle façon, et à côté des autres, voilà. Au fond, quelles sont les raisons qui empêchent cette réforme ou une tentative de réforme de marché ? À mon avis, au moins un point qui est fondamental dans cette tentative, qui vise en partie le clergé, un point commun dans cette tentative, c'est la lutte contre l'autorité. On n'en veut pas d'autorité, on veut du libertaire, du libéral, du démocratique, du populaire, du multiple en un mot. Et je pense que, agissant ainsi, on va exactement dans le sens contraire où il faut aller. Parce que si vous regardez l'histoire de l'islam, l'éclatement de l'autorité, sa dilution, parfois je dirais, parfois dans des cas marginaux, son inexistence a été la règle, la norme, pas l'exception. Pensez qu'en éliminant l'autorité, on apporte du nouveau sur une idée, à mon avis, infondée, disons, infondée, tout simplement. Au fond, voilà, il y a aussi un autre problème. Comme je vous disais, l'affaire est souvent, comment dire, un autre problème pour empêcher ces réformes d'aboutir. Le problème principal, c'est l'autorité. Il y a un autre, que je souligne en passant, c'est le caractère, je dirais, partiel. Je vous ai parlé d'une sorte de réduction au texte, une sorte de travail d'interprétation. Je pourrais utiliser le mot exégèse. D'accord. Mais la théologie et l'exlésiologie n'y sont pas présents. Ça le rend très partiel. Et ça l'empêche d'aboutir. Maintenant, revenons à l'autorité pour retrouver ces deux parties et voir comment ils sont liés dans l'histoire de l'islam. Au fond, la racine du problème ne remonte pas au prophète et à son autorité totale. La racine, c'est au IXe siècle, dans une crise que certains ont appelée une crise d'inquisition, et qu'on dénomme sous le nom du Mihna. Voilà. À l'époque de Mahamoud, le fils du célèbre calife des Mille et Une Nuits, des films hollywoodiens et tout le reste, fils de Harun al-Rachid, le calife qui voulait rétablir son autorité, raffermir son autorité, mettre fin à un éclatement des écoles juridiques dans l'Empire islamique, que sa dynastie avait pris des Omeyyades, avait reçu des Omeyyades, eut l'idée de raffermir son autorité. L'autorité était exprimée comme autorité totale, comme c'est toujours le cas quand on parle de l'autorité islamique. Totale en quel sens ? Politique, religieux, juridique, les trois. Donc, le calife qui voulait dire la loi, qui voulait dire le droit, qui voulait être la dernière instance en matière de gouvernement et de soumission à la loi, devait être qualifié pour le faire. Et il y avait un obstacle. L'obstacle, c'était quoi ? L'obstacle, c'était que le Coran, étant la parole divine, était là. Et lui était simple créature. Sur quelle base il va vous interpréter le Coran ? Non pas en amateur, mais en dernière instance. La solution qu'il a trouvée, apparemment, il y avait une influence déjà de l'Empire perse, tout le monde le connaît, chez les Abbasides, ça a été le fait de, ma foi, étant donné qu'ils ne pouvaient pas se diviniser, exclu, je dirais créaturiser le Coran. Donc, une position dogmatique définitive, le Coran est une chose créée. Quand il est créé, il est à ma portée. Du moins, je suis au même niveau, à peu près. Je peux venir et parler du Coran de ma position éminente et de l'interpréter de cette façon. Il a lancé une sorte de petite inquisition à l'époque pour que tout le monde reconnaisse, notamment les juristes de l'appareil, de ce qu'on pourrait appeler l'appareil d'État ou de gouvernement, et les figures marquantes des différentes écoles juridiques reconnaissent que le Coran est quelque chose de créé. Il n'a pas réussi. L'affaire a duré une vingtaine d'années, presque une trentaine d'années, et la réaction a été extrêmement vive, et la position contraire, le Coran incréé, qui vous est familier, ça, tout le monde le sait. Chez les musulmans, le Coran est la parole incréée de Dieu et coéternelle à lui, a été établi, a été raffermi. Pourquoi ? Pour une raison. Non pas qu'ils avaient, comment dire, que les gens avaient peu de tendance pour la pensée abstraite ou qu'ils voulaient faire quelque chose de bizarre, qui n'est d'ailleurs pas si bizarre ni si rare. Vous le constatez dans beaucoup de sectes, où l'autorité religieuse ne peut être, l'infaillibilité ne peut être entretenue de manière vivante. On l'investit dans quelque chose de mort, dans un texte. L'idée de la dictée divine est loin d'être une spécialité islamique. Voilà, qu'avaient fait, au fond, les opposants du calife ? Ils ont augmenté, surchargé de sacré le Coran pour empêcher que le calife, que l'autorité politique, puisse dire la loi et le changer à son gré. C'est quelque chose qui, par beaucoup d'historiens, je souligne, plutôt du monde anglo-saxon, a été souvent considéré comme une grande avancée, la liberté, et puis une grande lutte contre le despotisme. Il n'est pas interdit de voir, de constater ou de supposer qu'il, comme il arrive à nous tous, vous voyez cette querelle à travers le prisme européen qu'ils avaient vécu ou que leurs ancêtres avaient vécu. Bref, ils ont réussi à imposer le caractère incréé du Coran comme dogme. Et quelle a été la conséquence? La conséquence, c'est que l'autorité religieuse en islam a perdu sa vraie base d'affermissement. Autrement dit, l'infaillibilité vivante, finie, c'est dans le livre. Qu'est-ce qui sert d'interprétation? Ça a été confectionné à l'époque même. C'est ce qu'on appelle la sunna, cet ensemble attribué au prophète, qui constitue le contexte de l'interprétation du Coran. Voilà. Donc depuis, je ne dirais pas que l'autorité a été vacante. Non, pas vacante. Mais diluée, dispersée, disséminée, et chaque tentative pour la réunir et la rendre opérationnelle a échoué. La révolution iranienne a permis à Khomeini de le faire d'une autre manière, mais cela nous éloigne trop de notre sujet. Voilà. Donc, en combattant l'autorité, on continue sur la même ligne. Au fond, quand on constate cette situation et les tentatives de réforme qui n'aboutissent pas, je dirais que le tableau que je vous ai dressé n'a été guère optimiste. Mais je pense que c'est un peu réaliste. Au moins, une partie de la réalité vous est exposée ainsi, qui n'est pas toujours soulignée comme il faut. Voilà. Le fait, on parle de ce mélange de religieux et du politique. L'origine lointaine, le prophète. À mon avis, il y a quelque chose qui l'a entretenu, cette histoire, cette situation. Comme la création, elle doit être continue. Juste expliquée par l'origine, ça ne veut rien dire. Pour une raison très simple, sur le fond. Ce qui est fait par le prophète peut aussi bien être un exemple à imiter qu'une exception interdite. On ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il a entretenu? Le fait que les deux autorités religieuses et politiques n'ont pas pu se distinguer. Et là, le problème est plutôt du côté religieux. Le problème, le facteur, à mon avis, qui a poussé, qui a entretenu à ce mélange religieux et du politique en islam, et qui a causé beaucoup de problèmes et qui continue toujours de poser, c'est le non-raffermissement de l'autorité religieuse, parce que la politique était toujours là. Maintenant, on dit souveraineté, excellente. Le non-raffermissement de l'autorité religieuse qui manquait l'ingrédient principal, la cerise sur le gâteau, ou dans le cas présent, je dirais la cerise qui soutient le gâteau, l'infaillibilité, qui a été retirée. Les chiites l'ont eu pour un certain temps, mais ils l'ont perdu par la suite. Voilà. En fin de compte, je pense qu'en faisant un petit tour, le petit tour que nous avons fait, pour le théologico-politique, on peut avoir une image plus équilibrée du côté religieux et du politique. En même temps, bien que la solution soit difficile, on sait dans quel sens, en quoi elle consiste. Ensuite, aller au-delà de la simple théorie et de l'exégèse et de reconnaître un fait particulier et justement simple. La réforme requiert une séparation. La séparation doit survenir dans les pays musulmans. La séparation ne part pratiquement jamais du religieux lui-même. Et donc, il faut une politique puissante et bien déterminée, non seulement à la séparation, mais à reconnaître et à garantir l'indépendance de l'autorité religieuse pour que l'affaire puisse aboutir. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question et je vous remercie beaucoup de m'avoir prêté votre attention. Merci.
Il y a un certain nombre de questions sur des sujets brûlants. Monsieur Bechler veut parler.
Merci, Madame le Président. Cher ami, vous me permettez de prendre la parole au nom des incompétents radicaux et ignorants totaux sur ces questions. Et de transcrire, si vous voulez, votre propos parfaitement organisé de la manière suivante. Donc, vous êtes parti de l'expression théologico-politique. Vous avez laissé pour l'essentiel le politique de côté. Vous auriez pu le développer. et en particulier prendre comme ligne directrice ce qui est le régime politique dominant de l'Asie antérieure, qui est malgré tout la zone d'expansion de l'islam, ce régime étant césaropapiste depuis Sumer. Et je dirais pratiquement sans aucune exception. Alors évidemment, le papisme évolue en fonction des contextes religieux et César s'appelle pas toujours César. Mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire une alliance extrêmement étroite entre le politique et le religieux. Laissons cela de côté qui pourrait donner lieu à des développements, mais qui nous éloigne de la religion. Maintenant, occupons-nous du théologico. Alors, vous avez parfaitement saisi, souligné et développé le tournant qui est vers, c'est 850, je crois, ou 849, quelque chose dans ce goût-là, lorsque le calife de Bagdad décide que, dorénavant, le Coran sera considéré comme incréé, que, dorénavant, la condition humaine est soumise à un occasionnalisme intégral, c'est-à-dire que les êtres humains ne bénéficient d'aucun libre arbitre, mais qu'ils ne font que traduire, c'est la volonté divine. En ce moment, c'est Allah qui parle, par mon truchement, c'est pas moi, enfin, etc., etc., tout a été dit au départ, et donc il n'est absolument pas question d'interpréter et de développer. Cela s'oppose à l'école que l'on a appelée Mu'tazilite, qui défend les positions exactement opposées. Bon, nous sommes d'accord, cela dit, je ne suis pas sûr d'avoir compris pourquoi c'est l'acharisme qui a gagné contre le mu'tazilisme. Pourquoi le calife n'aurait-il pas pu choisir de soutenir le mu'tazilisme? Je ne vois pas dans le césaropapisme de raison décisive pour que ça ait évolué dans ce sens. Ça, c'est la variante sunnite de l'islam. Si on considère la variante chiite, que vous connaissez infiniment mieux que moi, je me suis laissé dire, en lisant comme ça, en grappillant un peu partout dans les études, qu'au XIIIe siècle, en Irak, une école de théologiens, de philosophes se développe, qu'on appelle l'école de Hilla. Il y a un certain nombre de personnages dont le nom m'échappe, ils ont des noms longs comme ça, qui se terminent par Hili, ils sont de Hila, qui reprennent très exactement les positions mu'tazilites, sans le dire, très exactement, le Coran est créé, les êtres humains bénéficient du libre arbitre et sont donc responsables de leurs actes, le Coran n'ayant pas été créé, ayant été créé, excusez-moi, peut être interprété, il y a donc un développement de la doctrine qui est confié aux soins des gens compétents qui peuvent se tromper. Mais il y a un côté Newman chez les hillistes, enfin, qui est tout à fait frappant. Et puis, au XVIIe siècle, avec le développement de la dynastie des Safavides, et vous savez mieux que moi, pour la première fois dans l'islam, chiite en l'occurrence, un clergé commence à se développer, à se mettre en place. Au XIXe siècle, sous les Qadjars, ce clergé esquisse quelque chose comme une église hiérarchisée. Il y a même un chef du clergé qui est nommé au début du XIXe siècle, mais ça dure pas parce que, bon, je suppose qu'il paraissait un peu trop menaçant pour le pouvoir. S'appelait calife, votre...
Non, le roi, le...
Le chat. Autrement dit, ce qui aurait pu être un développement de l'islam sunnite se retrouve, autant que je puisse savoir, dans l'islam chiite. Alors, est-ce qu'on peut en tirer la conclusion que l'avenir de l'islam, c'est le chiisme? Parce qu'il peut s'adapter très facilement, me semble-t-il, à un monde moderne. Moderne au sens politique, économique, scientifique du terme. Alors que le sunnisme paraît beaucoup plus difficile, si vous voulez, sans mutation extrêmement profonde qui risque de le ruiner intégralement, étant donné les positions, vous le répéterez pas, absurdes, sur lesquelles il repose intellectuellement. Alors bon, voilà, c'est une question que je vous... D'abord, deux questions. Est-ce que j'ai Est-ce que je n'ai pas dit trop de cette sottise? Et deuxièmement, qu'en pensez-vous enfin?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Regardez, en ce qui concerne au début...
Merci. Attendez, on va peut-être attendre...
Tout réunir.
Tout réunir, si ça vous ennuie pas.
Excusez-moi.
Rémi Brague.
Merci, Madame le Président, et merci aussi à vous, Ramin Kamran, pour cet exposé où j'ai reconnu certaines de vos idées que nous avions discutées ensemble. J'aimerais vous poser deux questions. L'une, alors là aussi, portant sur la nature du chiisme, qui a cette particularité d'avoir prolongé l'idée d'infaillibilité du prophète par une lignée plus ou moins longue, 12 dans la religion officielle de l'Iran, 7 dans l'ismaélisme, des choses de ce genre-là. La lignée a été prolongée par une série d'imams, enfin d'aïm, tous censés infaillibles, en tout cas préservés du péché. Et est-ce que est-ce que le fait que la révolution iranienne se soit passée en terre chiite totalement indépendante de ce substrat qui n'est pas le même que dans le sunnisme? Et ma seconde question, puisqu'il n'y en aura que deux, porte sur la notion de réforme. Vous avez dit que Khomeini ressemblait plus à Luther que les autres, petits Luther que les médias nous présentent de temps en temps, avec plus ou moins de sérieux. Si j'ai bien compris, ce dont l'islam aurait plutôt besoin... Et là, je cède la parole à l'affreux Jojo en moi, qui affleure très souvent, c'est d'une contre-réforme. Le problème de l'islam, c'est qu'il est trop protestant, d'une certaine façon. Appliquer ces catégories catholiques, protestants, et commencer par parler de réforme en pensant à la réformation du XVIe siècle, est évidemment sujet à caution. Mais sola scriptura, ça va très bien. Chacun est son propre prêtre, effectivement, pas d'intermédiaire. Enfin, combien d'hommes entre Dieu et moi, s'exclame Rousseau, en bon protestant, qui vient d'ailleurs de faire l'éloge de l'islam dans le chapitre de la religion civile. Donc on peut se demander si il n'y aurait pas besoin, d'une certaine manière, d'une catholicisation à outrance de l'islam pour que l'on arrive à en tirer quelque chose. Un petit détail amusant, c'est que, je ne voudrais pas être grossier, mais je vais employer le mot dialogue. Le dialogue, sauf votre respect, entre islam et chrétien, est plus facile avec des chiites. Tout simplement parce que les dignitaires ecclésiastiques, les dignitaires de l'Église catholique réunit, comprennent à peu près ce que c'est qu'un Rejatol Islam, qu'un Ayatollah. Ils savent un peu. Et restent de l'autre côté, ils ont l'expérience d'un clergé, et ils savent à peu près, ils devinent quand même ce que peut être un évêque, ce que peut être un monsignor quelconque, un porporato quelconque. Alors c'est un paradoxe assez amusant que j'aimerais vous soumettre. Merci.
Merci. Michel Pébreau.
Merci Madame le Président et merci de cet exposé qui fait réfléchir. Vous avez évoqué en ce qui concerne la mise à jour ou la modernisation des aspects politiques, religieux, juridiques. Je voulais vous demander s'il y avait des aspects économiques. Lorsqu'on analyse la première expansion, période d'expansion de l'islam, on constate que ces aspects n'étaient pas négligeables, c'est-à-dire que cette expansion géographique s'est faite de territoires particulièrement peu favorisés vers des terres plus propices, si je puis dire, à la création de richesses. Y a-t-il donc un aspect économique à la modernisation envisagée? Et par rapport à cet aspect économique, y a-t-il une différence entre sunnites et chiites?
Merci. Si Plus personne. Monsieur Casanova.
Madame le Président, j'ai une question très simple, mais à la marge de votre sujet. Quelle interprétation religieuse donnez-vous de la révolution iranienne ?
Merci. Gilbert Guillaume.
Oui. Je vous remercie, madame. Quand on parle du Coran et de l'islam, on tombe très vite sur des problèmes d'interprétation, comme vous l'avez dit. Interprétation de texte. Et il semble qu'il y ait une différence dans les possibilités d'interprétation selon qu'on considère ce texte comme ayant été créé ou incréé. J'avoue que je ne pénètre pas très bien cette distinction du point de vue de l'interprétation. Je veux dire qu'interpréter un texte, c'est regarder ce qui est écrit. Et en droit international, on ajoute dans le contexte et compte tenu de l'objet et du but. Est-ce que cette conception de l'interprétation, interprétation du texte dans le contexte, compte tenu de l'objet et du but, est ou non compatible, à votre avis, avec le fait que le Coran est considéré comme incréé ? Je vous remercie.
Merci.
Merci. Eh bien, monsieur, je vous laisse répondre à toutes ces questions. Ah, pardon. Monsieur Levillain. Excusez-moi.
Oui, monsieur, merci beaucoup pour votre exposé qui m'a d'autant plus passionné qu'en vous écoutant parler de réforme, m'est revenue à l'esprit une formule qui a fait Flores ultérieurement, qui est d'un piétiste hollandais et qui est postérieur à la réformation, qui est Van Notenstein, qui a lancé la formule « Saint-Père Ecclesia Reformanda ». Le gérondif signifiant forcément une dynamique par rapport à une base qui, elle, est solide. Et l'idée de Lodenstein est que, après la Réformation, il y a un socle qui véritablement établit ce qu'on peut appeler ce que vous appelez d'ailleurs vous la modernisation, en tout cas, je dirais, la mise à jour de ce qu'est la tradition, terme qui dans l'Église catholique n'a pas le même sens que dans d'autres religions, et qu'au fond, le Saint-Père Reformanda est inclus dans la conscience des fidèles qui doivent percevoir le type de rapport qu'ils ont à la doctrine. D'où la proposition qu'il fait, sur laquelle vous interrogez, c'est ma question. Que pensez-vous de cette formule qui a résumé ce Ecclesias Saint-Père Reformanda dans la proposition qui était faite au Vatican II de ce qu'on appelle une herméneutique de la continuité ? Quand peut-il y avoir ce que l'on peut appeler une interprétation, donc une herméneutique, dans la continuité et dans le rapport entre précisément l'écrit, l'oral et la conscience intérieure. Merci.
Merci. Si vous voulez bien répondre dans l'ordre que vous aurez choisi.
Avec plaisir. Merci beaucoup. Je commencerai par les remarques de Jean Béchler, qui sont très justes, à commencer par le fait que j'ai délaissé, pratiquement, je n'ai pas parlé du politique. C'est que, je dirais, j'ai essayé de suivre les discours ambiants. Le discours ambiant est centré sur le religieux et le problème du régime politique est totalement oublié, à tort, à mon avis. Je le reconnais, mais je reconnais aussi d'avoir reproduit ce tort, à petite échelle. En ce qui concerne le moutazélisme, la remarque est non seulement fondée logiquement, mais historiquement, parce que les moutazélites, à l'époque, ont soutenu la position du Coran incréé. Ils ont été les grands défenseurs, philosophes de cette position. Ce qui peut-être explique d'une certaine manière leur défaveur et leur chute après la victoire du camp adverse, des Hanbalites et ensuite des Hachalites. Mais sinon, ils étaient là. En ce qui concerne l'héritage des Moutazilites, de ce qui peut être considéré comme la discussion rationnelle au sein de la religion, non pas une théologie rationnelle structurée et installée, mais néanmoins, je pense qu'il est assez répandu de reconnaître que cet héritage a été assumé par les chiites. C'est de ce côté-là que ça a continué, totalement. Et en ce qui concerne le problème que l'histoire des élites et le problème des moutazélites, regardez, en ce qui concerne la querelle sur le Coran, créé ou non créé, il y avait le calife, il y avait les adversaires, mais il y avait le imam chiite qui était là, dont personne n'en voulait. Et que représentait l'imam chiite ? Le principe ancien, le transfert de l'infaillibilité par charisme lignagé. Bien sûr, les chiites se sont toujours présentés comme les contestataires, ceux qui sont venus dire que ce n'est pas comme ça. Pas du tout. Ils sont les plus traditionnels en la matière. Ils s'appuyaient sur la version ancienne. Ils ont pu se tirer de cette querelle, mais avec la disparition du 12e imam, ils y sont trompés. La seule branche du chiisme qui y a échappé, je dirais les chiites heureux, ce sont les chiites ismaéliens, qui ont toujours eu leur imam, et dont personne n'entend parler. Aucune difficulté de ce côté-là. À mon avis, ça peut être avancé comme une preuve des profits qu'on peut tirer de l'existence d'une autorité solide et d'une assise solide pour l'infaillibilité. En ce qui concerne les capacités d'adaptation du chiisme, tout à fait, et j'ajouterai que l'évolution, c'est pour ça que j'ai parlé de Roménie en termes de réformateur, et là, réformateur malgré lui. Quand j'ai parlé de la ressemblance avec Luther, c'était le profil psychologique, c'est à cela que je pensais, cette dureté. On ne le voit pas chez les réformateurs qui iraient là, et qui iraient en exil, qui seraient prêts à mourir et jouaient facilement le destin, non pas leur destin personnel, mais toute une population, de tout un pays, pour asseoir leur idée. Ça, c'est Roménie, net. C'est pas forcément sympathique, mais c'est un type historique très particulier et très rare, Dieu merci. Cela dit, en ce qui concerne les capitales, oui, voilà. Étant donné que Roménie a concentré l'autorité mélangée par le relais de l'appareil d'État, il a créé une situation où l'Église a une tête. Lui-même n'a jamais utilisé le mot infaillibilité, ni ses partisans. Parce que dans le cadre du chiisme, faire concurrence à l'imam absent, c'est l'hérésie type. Donc, en bon religieux orthodoxe, il a toujours évité cela. D'un autre côté, il était le grand chef révolutionnaire, le grand chef charismatique, comme on dit. On l'obéissait, point. Nul besoin d'y mettre un nom. On l'obéissait en tout. Et ces innovations en matière de religion, un, poussaient les religieux vers une unification, autrement dit, enfin, rendre l'Église chiite monarchique, donner la tête qui lui manquait, et d'un autre côté, intervenir dans le dogme. Personne n'a oublié que pour lui, il a déclaré ouvertement que le fait, garantir la vie du gouvernement, du régime islamique, l'emporte sur tous les impératifs religieux traditionnels, y compris la prière quotidienne. Ça, il faut le faire. Et ce n'est pas à la portée de tous. Au fond, la logique qu'il suivait était extrêmement simple. En bon juriste, il ne faut pas oublier. Roménie était avant tout juriste. Il a fait beaucoup de métaphysique et de théologie jusqu'à l'âge de 40 ans. Après, il y a eu la grande tournure. Il dit tout ce que j'ai écrit quand j'étais jeune, c'est bon pour les rats. Ça vous rappellerait quelqu'un. Et voilà. Et il s'est tourné vers la loi. Et ceux qui l'ont entouré sont des juristes aussi. Au passage, je vous dirais que ce régime est qualifié de fasciste, à mon avis, à juste titre. Mais pour les Européens, qui sont habitués à des mouvements fascistes sortis d'anciens combattants. Parfois, on pense qu'il faut avoir des anciens combattants, quelque chose de paramilitaire et tout. Non, non. Ici, vous avez un fasciste de juriste compétent et de solide. J'ajouterais, si j'étais un peu, si vous voulez faire un peu de provocation, que les grands juristes, style Carl Schmitt ou Santi Romano, qui ont travaillé avec les fascistes, les pauvres, ils sont nés au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est là qu'il fallait être. Voilà. Tout le monde n'a pas cette chance. Maintenant, j'en viens aux remarques de Rémy Braque, où il a dit que si c'est un hasard que cette révolution est passée en Iran. Non, non. Quand on regarde le long terme, c'est là qu'il devait passer. Parce que c'est là qu'il y avait un clergé puissant, pas seulement la personnalité de Roménie, mais un clergé puissant pour prendre le pouvoir. Regardez une chose simple qu'on voit tout le temps à la télé. Quand il y a des islamistes sunnites, ils sont toujours en civil. Quand il y a des islamistes, des chefs chiites, toujours des religieux. Ça ne veut pas dire qu'en terre chiite, il n'y a pas eu d'islamistes civils, laïcs, entre guillemets. Il y en a eu. Mais les chefs sont toujours les religieux, parce que la culture de l'autorité est là. En terre sunnite, non. Vous pouvez le constater, par exemple, en Égypte, en Irak, en Libye, où vous voulez. Et le dernier point qu'il a souligné, que l'islam, plus qu'une réformation, a besoin d'une contre-réforme. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Et ce à quoi... C'est pas à la mode. Ça n'attire pas les esprits. Ça ne suscite pas l'intérêt. Mais à mon avis, la solution est là. L'autorité, c'est là. Sinon, un éclatement de l'autorité ne permet pas d'aller de l'avant. Ça vous tire toujours vers la moyenne. Et vous y restez. Non pas qu'il n'y ait pas eu de changement. Surtout du côté chiite, il y en a eu, mais sur des siècles. Mais l'autorité concentrée de Khomeini a fait pendant 10 ans, a introduit des changements, pas dans le sens que nous souhaitons, je le reconnais, mais des changements quand même, qui va très au-delà de la moisson de plusieurs siècles, de quelques siècles du moins. En ce qui concerne la modernisation politique et les aspects économiques, les aspects économiques sont extrêmement importants, comme l'a indiqué M. Pepro. Mais en même temps, dans l'islam, ce n'est pas ce qui est essentiel. Au début, les événements, les guerres, vous y avez fait allusion, c'est des guerres de pillage. C'est le degré zéro de l'économie, c'est rien à ça. Après, l'économie, d'accord, traditionnelle et dans le monde nouveau. Contrairement à la tradition marxiste, qui est la grande tradition idéologique en Europe, là, la catégorie de l'économie ne pose pas de problème. À la base, c'était chacun à total contrôle sur ses biens, donc qui va très bien dans le sens du libéralisme. Dans les faits, il y a eu une tournure socialiste, comme dans toute révolution, je dirais, et dans tout gouvernement qui veut te contrôler. On ne peut pas se permettre, je dirais, l'émergence d'une élite économique indépendante. Non. Il y a la prébende, on se partage. En gros, c'est ça. On peut toujours le considérer comme une sorte de pillage, c'est vrai. Mais je dirais que le choix socialisme-libéralisme n'est pas fondamental idéologiquement. C'est libre, c'est ouvert. En ce qui concerne la remarque de Jean-Claude Casanova, qui est l'interprétation religieuse que je donne de la révolution de 79. Naturellement, l'explication que je donnerai, ça n'a rien de religieux. C'est politique, sociologique et tout le reste. Mais l'interprétation religieuse a quelque chose d'amusante, je dirais. Surtout si on n'aime pas le régime qui en est issu. Regardez, en ce qui concerne le chiisme, l'autorité était en suspens. Et le 12e imam, qui est invisible, mais qui est là, était censé l'exercer. Mais étant absent, une grande question, je dirais, la grande panoplie dans la théologie et dans le droit chiite, est le fait que, étant donné que l'imam est absent, quelle partie de son autorité peut être exercée par les religieux ? Classique. Les réponses allaient du minima, pratiquement rien, au maxima de Roménie. Je me permets de souligner que le maxima a été toujours marginal, ultra marginal. Le fait qu'il a pu prendre le pouvoir, se mettre au pouvoir, à l'issue d'une révolution de très grande envergure, a créé l'illusion qu'il y avait des racines historiques profondes et que c'était ça le destin de l'islam. Jadis, je me souviens, mon maître, ancien membre de l'Institut Raymond Boudon, avait parfois l'habitude de souligner avec ironie le principe de la dignité de la cause. Est-ce que César pourrait mourir d'un rhume ? Mais c'est indigne, il faut que je l'ose plus sérieux. Et là aussi, donc, vous parlez du rôle du contingent, du hasard dans la prise de pouvoir de Roménie. D'abord, on fait remarquer que le hasard n'est pas un principe explicatif. Ce qui est juste. Et deux, on cherche toujours des racines et des racines plus anciennes. Et là, il y a une autre dignité qui arrive, c'est la dignité de l'ancien. Plus la cause est ancienne, on remonte au prophète, donc plus elle génère des faits. Ce qui ne se vérifie pas entre nous quand vous regardez les faits de près. Mais en ce qui concerne le pur religieux, le chiisme a une vision eschatologique très claire. Le 12e imam est le Messie. Il y aura une seconde apparition du Messie. Il viendra à la fin du temps, il mettra fin au temps, aux misères de la condition humaine, et on entrera dans un monde parfait, de justice parfaite. De cette justice au sens premier chaque chose sera à sa place. Donc il n'y aura plus de conflit. Mais il y a un problème. La justice divine doit être imposée, réalisée par le Messie. Si vous arrivez là, vous prenez le pouvoir et vous prétendez avoir instauré la justice divine, ma foi, que fait le Messie ? Il va à la MPE. Le problème vous est probablement familier dans un autre contexte. Mais les chiites iraniens sont tombés dans la même situation. Si quelqu'un prend sur lui de réaliser ce que le Messie doit réaliser, où est-ce qu'on va ? Où on va ? Que devient l'eschatologie chiite ? Ça, c'est une crise grave à laquelle, à mon avis, il n'y a pas de réponse, à laquelle, chose amusante, de ces petites nouvelles qui n'intéressent jamais naturellement les journalistes, parce que les problèmes de théologie et tout, ça n'intéresse pas tout le monde, disons. Que faire dans cette situation ? Il y a l'imam. En bon chiite, vous n'avez absolument pas le droit, il est impossible de dire que l'imam n'a rien à faire et ne viendra pas. Il y a 6 mois, je pense que Khamenei a pris la parole quelque part, qui n'a pas été remarquée. Il a parlé de l'apparition de l'imam. Il a dit oui, il n'y aura pas un bouleversement quand même. Ce sera une amélioration dans la lignée de ce qu'on a vu. Et on voit très bien où on va en gouvernant, surtout au nom du chiisme, en prenant sur soi les charges du Messie. En faisant ainsi, on tombe dans le problème jadis exposé par le marxisme. Le salut à l'intérieur de l'histoire. Vous garantissez le salut à l'intérieur de l'histoire. Qu'est-ce qui reste à faire après l'histoire ? Il n'y a pas de réponse. Ils n'ont pas donné de réponse. Je sais qu'ils sont conscients. Ce n'est pas leur propos premier. Quand on exerce le pouvoir, on ne fait pas tellement théologie. Non. Mais ça les travaille. Si ça ne les travaillait pas, quelqu'un comme Khamenei n'arrivait pas à dire une telle chose. Bref, le problème important, à mon avis, qui a interdit de manière traditionnelle aux clergés chiites de gouverner, c'est qu'on empiète ainsi sur le projet du Messie. On fait éclater l'eschatologie chiite. On ne peut pas les dire ouvertement, mais c'est là, et tout le monde le comprend. Ensuite, en ce qui concerne M. Guillaume, votre remarque est très juste, je me suis mal exprimé. Le statut du texte, incréé ou créé, n'influe pas sur l'interprétation en premier lieu. L'important, c'est que vous ayez une autorité pour interpréter. C'est ça qui est fondamental. Quelqu'un qui dit le dernier mot, qui dit le dernier mot. Excellente, fini. Que le texte soit créé ou pas, aucune importance. En ce qui concerne la remarque de M. Levillain, que j'ai pu suivre en partie, ne connaissant pas très bien le contexte de Vatican II et de l'herméneutique dans la continuité. Il y a une chose, sûrement, avec laquelle je suis d'accord, dans l'adage que vous avez cité, c'est que oui, c'est la voie. On ne peut pas réformer, on ne peut pas changer, on ne peut pas faire évoluer au-delà d'une autorité centralisée, en une personne ou un groupe ou un collège, d'accord ? Mais centralité, et surtout s'appuyant sur l'infaillibilité, qui est l'ingrédient principal, qui heureusement existe dans le cas des chiites. Ça n'a pas été utilisé de la meilleure manière, mais je pense que le fait que l'autorité ait été concentrée déjà, et que, étant donné la présence et les profondes racines de la notion du concept de souveraineté, non seulement dans le monde, mais en Iran, parce que Khomeini lui-même a été tributaire de ce concept pour formuler sa théologie politique. Quand vous parlez infaillibilité et vous vous mettez à dire que le guide est infaillible, ce qui se fait depuis 3-4 ans en Iran, vous finirez par tomber sur un éclatement, un détachement d'avec la souveraineté. Ça, c'est la logique. Bien sûr, vous direz que la logique n'a pas de force d'exécution. C'est vrai. C'est une douce pente, une pente très douce. On peut aller dans le sens contraire, mais on finit par s'essouffler. Est-ce que c'est suffisant pour l'éclatement ? Non. Ça doit partir de l'extérieur, du politique, ainsi de suite. Mais à mon avis, c'est une indication qui permet d'espérer quand même. Un peu optimiste. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur, de tous ces éclairages. Ils nous ont beaucoup appris.
Très gentil. Je vous remercie beaucoup.